de comprendre dans ces conférences de l'UTLS, je crois, c'est que à côté d'une mise en place des idées, l'important, c'est que vous réagissiez et que vous posiez les questions de telle façon à vous rendre compte que l'acquisition des savoirs, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui procède d'un travail, ça s'appelle la démarche scientifique. C'est quelque chose qui se passe dans des laboratoires, avec des expériences qui permettent toujours de révéler une fraction du réel, qui permettent d'avancer des arguments en faveur de telle ou telle hypothèse. À certains moments, ça permet d'avoir des modèles cohérents. À d'autres moments, ces modèles sont remis en question. Mais l'important, c'est que vous vous rendiez compte que la science, c'est une démarche. Ce n'est pas seulement des connaissances acquises, c'est des connaissances qui procèdent d'un travail qui se passe dans des laboratoires, qui se passe pour les sciences humaines dans des bibliothèques, mais qui procède donc de quelque chose qui est une démarche, qui est un acharnement du savoir et qui, à certains moments, permet des découvertes absolument merveilleuses. Et d'une certaine façon, la démarche scientifique, c'est la grande aventure d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de prendre un trimaran et de risquer sa vie à l'autre bout du monde pour avoir une grande aventure. Je crois que faire de la science, c'est aller au-devant de connaissances inconnues par définition et avoir une excitation de cette connaissance qui permet tous les jours d'avoir envie d'aller au laboratoire. Alors, dans une conférence que j'avais faite à Angers pour les états généraux de la bioéthique, je l'avais appelée la fin de l'insouciance du déterminisme. Et au fond, s'il y a un message que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui sur les cellules souches, et on va voir pourquoi et comment, c'est que l'idée qu'il y a un destin tracé, l'idée qu'il y aurait une séquence du génome, et qu'à partir de cette séquence du génome, la vie est faite, la flèche du temps est déterminée, le destin de chacun est inscrit. Naguère, il était inscrit dans les étoiles, aujourd'hui, il serait inscrit dans l'ADN. Tout ce que fait la biologie aujourd'hui, et justement les grands programmes de séquençage qu'on a de plus en plus puissants, nous démontrent que c'est faux. Et que la biologie, par définition, c'est un système vivant, et un système vivant ne peut être vivant que par son ouverture sur son environnement. Un système vivant a besoin d'énergie, un système vivant a besoin d'échange. Il n'existe pas de système vivant qui ne soit pas ouvert sur l'environnement, et à cause de cette ouverture, qui ne soit pas plastique. Plastique, ça veut dire adaptable. Une pierre, ça s'érode, c'est pas adaptable à son environnement. Quand il y a un tremblement de terre, ça casse. Le vivant, non. Il est capable, face à différentes circonstances, une augmentation, une diminution de la température, un changement des substrats énergétiques qui existent dans cet environnement, il est capable de s'adapter, de modifier son mode de fonctionnement, et donc il est plastique. Et juste un mot sur ces fameuses cellules gliales dont il a été question et qui sont l'objet de mon laboratoire. Eh bien, dans votre cerveau, vous avez à peu près 200 milliards de cellules. Sur ces 200 milliards de cellules, les neurones, dont vous avez tous entendu parler, ne représentent qu'une petite partie. La plus grande population, c'est ces cellules gliales, qui sont aussi des cellules neurales, qui participent au fonctionnement de votre cerveau, qui ont des capacités de renouvellement, qui sont pour une partie d'entre elles les cellules souches du système nerveux qui permettent aussi un renouvellement, et qui vont, avec les neurones, en collaboration avec les neurones, permettre des adaptations. L'apprentissage que vous êtes en train, je l'espère, d'apprécier en ce moment au lycée, même si l'angoisse pour certains d'entre vous des examens de fin d'année pondère un peu cette excitation du savoir. Mais vous verrez que ça fait du bien après de pouvoir poursuivre dans l'université. J'espère que beaucoup d'entre vous qui choisissent une voie technique ou scientifique poursuivront dans l'université. Et donc, en permanence, vous savez ce que vous avez fait hier, avant-hier, les jours précédents. Vous prévoyez, vous pensez déjà ce que vous ferez dans les jours qui viennent et vous êtes en permanence capable d'adapter vos comportements grâce à cette plasticité. Alors revenons-en au sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche ? Une cellule souche, comme son nom l'indique, elle fait référence au tronc de l'arbre, à la souche, c'est celle d'où viennent les autres cellules. C'est celle qui est à l'origine. D'une certaine façon, c'est la cellule mère. Alors cette cellule souche, elle a des caractéristiques particulières. Bon, première caractéristique, elle est à l'origine d'eux. Deuxième caractéristique, alors qu'on vous a appris dans vos cours de biologie que une cellule, quand elle se divise, elle donne deux cellules filles. Une bactérie, ça donne deux bactéries. C'était Monod, le prix Nobel, qui disait que le rêve d'une bactérie, c'était de devenir deux bactéries. Mais les deux bactéries filles sont identiques à la bactérie mère. Si on prend une cellule de peau, les deux cellules filles, les deux fibroblastes qui procèdent de la division d'un fibroblaste, sont deux fibroblastes identiques aux fibroblastes initiales. Pour les cellules souches, on va avoir une caractéristique bien particulière qu'on appelle la division asymétrique, qui va permettre que une des cellules filles soit identique à la mère, donc un auto-renouvellement du pool de cellules souches, et puis une deuxième cellule, elle, va entrer dans un compartiment qu'on appelle le compartiment d'amplification transitoire. Une cellule va devenir des millions de cellules, et ces millions de cellules vont se différencier pour devenir un des organes, un des tissus de notre organisme. Au début, il y a un seul œuf, on va le revoir, hein, il y a une seule cellule, hein, la fusion du spermatozoïde avec l'ovule donne un seul œuf initial, et puis à la fin, vous avez des millions de milliards de cellules qui composent un corps humain avec environ 275-300 types de cellules différents. Donc comment on passe de cette cellule initiale à ces 300 cellules différentes, c'est tout l'enjeu des travaux qui se font sur les cellules souches pour comprendre comment on passe de 1 totalement indifférencié à 300 bien répartis pour faire un nez, pour faire un foie, et puis comment, dans certains cas, ça dérape, ça fait des maladies, comment, dans d'autres cas, on pourrait imaginer, dans la médecine régénérative, arriver à remplacer un tissu, un organe, par les cellules correspondantes à cela. Alors, plusieurs de mes diapositives sont en anglais. Quand j'ai préparé cet exposé, je me suis dit, quand même, c'est un exposé pour l'Université de tous les savoirs, donc une université francophone, et puis ça va être un public de lycéens. Mais en même temps, je me suis dit, comme ça, vous allez avoir deux choses pour le prix d'une. Vous allez faire de l'anglais en même temps que vous allez faire de la biologie. Alors, j'ai laissé mes diapositives en anglais et j'espère que les professeurs d'anglais ne m'en voudront pas de leur prendre aussi une partie de leur travail. Alors, au début, c'est ce que je viens de vous dire. Au début, il y a l'œuf initial, c'est une cellule. Et dans les premières heures qui suivent la fécondation, c'est cette cellule unique qui va simplement se morceler en 2, puis en 4, puis en 8 cellules, avec exactement le même volume. L'œuf initial ne va pas changer de volume. Alors cette cellule initiale, elle a une caractéristique, et puis les 2 à 8 cellules qui suivent selon les organismes, elle a, comme je vous l'ai indiqué ici, elle n'a pas d'auto-renouvellement puisqu'elle se fragmente. Hein, elle ne se divise pas, elle se coupe en 2, en 4, en 8. Mais c'est la seule cellule, et c'est important de comprendre ça, c'est la seule cellule qui soit capable de tout faire, d'être totipotente. Pourquoi ? Parce que pour faire un organisme, il faut non seulement les cellules qui vont donner les différentes cellules de notre organisme, mais il faut aussi permettre le développement de cet organisme. Et pour permettre le développement de cet organisme, il faut tout l'appareil placentaire, tout l'appareil amniotique, tout l'environnement dans lequel va se développer le fœtus, l'embryon, puis le fœtus. Et cet environnement, il est aussi donné par la cellule initiale. Donc seule cette cellule initiale ou les 2 à 8 qui la suivent sont totipotentes. C'est ce qui va permettre, dans certains cas, quand ça se coupe en deux, de donner des jumeaux qui peuvent avoir deux sacs amniotiques tout en étant issus du même œuf. Un peu plus tard, c'est vers 3-4 jours après la fécondation chez l'être humain, on va se retrouver avec cette chose. On est à peu près là avec 250 cellules. C'est microscopique, ça fait moins d'un millimètre. Et puis, ça se creuse au centre, c'est pour ça qu'on appelle ça un blastocyste. Ça ressemble un peu à une framboise. Et dans cette framboise, vous avez déjà deux sortes de cellules. Vous avez les cellules qui forment la coque de la framboise. Ça, c'est les cellules qui vont donner les annexes, justement. Le placenta, le liquide amniotique, les cellules du sac amniotique. Et puis, alors appendu au toit ou sur le plancher de ce blastocyste, vous avez une petite masse qui fait 100-150 cellules, qu'on appelle la masse cellulaire interne. Chacune de ces cellules, elle est microscopique, elle fait 5 microns de diamètre. Petite cellule ronde, très petite, on en verra tout à l'heure sur des photos. Donc c'est quelque chose de tout petit. Mais c'est à partir de ces cellules que tous les tissus vont se former. Ces cellules, depuis quelques années, d'abord au tournant des années 90, ça a été le travail de gens qui ont reçu le prix Nobel comme Oliver Smitty. On a été capable de les cultiver chez la souris d'abord, 10 ans plus tard chez l'homme. Ce sont des cellules qu'on appelle pluripotentes. Elles sont pluripotentes parce qu'elles sont capables de donner les différents tissus de l'organisme. Elles ne sont pas capables de donner un individu entier, mais elles sont capables de donner les différents tissus de l'individu. Elles ont un très fort potentiel de prolifération. Vous vous rendez compte qu'à partir des 150 cellules du début, vous allez devenir l'individu que vous êtes avec plusieurs millions de milliards de cellules. Donc il faut bien que ça prolifère très fort. Elles vont s'auto-renouveler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une cellule souche va pouvoir donner la même cellule souche et puis ce compartiment d'amplification. Et puis elles vont avoir des capacités de différenciation. Et puis on avance, on arrive à la naissance. Là, on va reparler tout à l'heure des cellules souches du sang du cordon. Et puis on avance encore, et là on est chez l'individu adulte. Et l'une des avancées aussi du tournant des années... c'est quelque chose d'ancien, on verra tout à l'heure avec les cellules de la moelle osseuse, les cellules du sang, mais quelque chose de plus récent dans une meilleure caractérisation, les cellules souches adultes. Alors ces cellules souches adultes, elles ne sont plus que multipotentes. On a restreint leur capacité. On verra un peu tout à l'heure comment on restreint ces capacités. Ça veut dire que maintenant, elles sont commises pour ne faire qu'un seul organe, pour ne faire que du cerveau ou pour ne faire que du sang. Elles sont spécifiées dans un tissu donné. Elles ont des taux de renouvellement beaucoup plus faibles. Alors, on verra tout à l'heure que c'est à moduler selon les tissus, parce que si vous prenez les cellules souches du côlon, ou du tube digestif, vous changez de tube digestif toutes les semaines. Alors, il est sûr qu'une cellule souche du tube digestif, au cours de la vie d'un individu, va donner plusieurs millions de milliards de cellules du tube digestif. Vous changez de peau toutes les 3 semaines, vous changez de globules rouges tous les 3 mois. Donc, il faut bien beaucoup de renouvellement pour ces cellules souches-là. Par contre, pour les cellules souches du système nerveux, elles ont une capacité de prolifération, mais cette capacité, elle ne s'exprime pas dans la vie normale. Dans la vie normale, une cellule souche neurale va peut-être donner entre 1000 et 10 000 cellules au cours de la vie totale d'un individu. Donc vous voyez que d'un tissu à l'autre, une cellule souche adulte, elle peut donner soit des millions de milliards, soit quelques milliers de cellules selon le tissu dans lequel on est. Elle garde des propriétés d'auto-renouvellement, elle garde des propriétés de différenciation. Une cellule neurale, elle peut donner une cellule gliale ou elle peut donner un neurone selon l'endroit, selon l'environnement dans lequel elle est. Toujours cette ouverture, toujours cette interaction, toujours cette instruction qui est donné par l'environnement à la cellule d'aller dans une direction ou dans une autre direction. Alors pourquoi est-ce qu'il faut étudier les cellules souches ? Bah pour de multiples raisons. D'abord pour comprendre. Depuis que l'homme existe, il veut comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait dans l'univers. Nos capacités cognitives, le fait qu'on ait un gros cerveau, fait que nous essayons de penser, de trouver un sens à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Donc, savoir, connaître, simplement pour savoir, est une des activités humaines fondamentales. Bien sûr, la science a beaucoup d'utilité. Si vous avez des téléphones portables, si vous pouvez voir la télé le soir, si vous pouvez aller vous faire soigner à l'hôpital, c'est grâce à des avancées scientifiques. Mais il faut que vous vous rendiez compte que la première motivation des scientifiques, c'est d'essayer de comprendre. C'est cette outrecuidante prétention à essayer d'aller là où personne n'est encore allé jusque-là. Cette ambition absolument démesurée de vouloir savoir et comprendre des choses que personne n'a encore su et compris jusqu'à maintenant. Aller au-delà de la frontière des savoirs. Et c'est ça la première motivation. Il y a Michel Foucault, qui est un très grand philosophe, qui a dit dans le début d'un de ses ouvrages, qui était l'histoire de la sexualité, et que vaudrait l'acharnement du savoir s'il ne devait valoir, et autant que faire se peut, l'égarement de celui qui connaît. On est à la frontière, et la première chose, c'est de savoir ce qui se passe au-delà de cette frontière, ce qui se passe au-delà de la ligne de crête. Donc, simplement savoir pour savoir, c'est quelque chose d'important. Et puis, savoir pour comprendre beaucoup de maladies. Par exemple, le cancer. Le cancer, c'est une maladie de la différenciation. On en verra une illustration après. Et c'est une maladie dans laquelle des cellules se mettent à proliférer sans qu'elles reçoivent les bons signaux de leur environnement. Donc, pour essayer de comprendre, par exemple, le cancer, eh bien, aujourd'hui, on essaye de comprendre les cellules souches. Pour essayer de soigner le cancer aussi, on essaye de comprendre les cellules souches. Puis, il y a des maladies qui sont aujourd'hui liées, par exemple, au vieillissement. Vous avez probablement, malheureusement, plusieurs d'entre vous, des grands-parents qui souffrent d'une maladie de Parkinson ou qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer. Ça, ce sont des troubles liés au vieillissement, associés au vieillissement et liés à la dégénérescence de certaines cellules. En essayant de comprendre l'origine des cellules du système nerveux, on va essayer de trouver des stratégies de remplacement de ces cellules. Et puis, vous avez aussi des milliers de maladies avec des défauts génétiques. Vous connaissez l'émission du Téléthon au mois de décembre. Eh bien, on va essayer, en associant de la thérapie génique et les cellules souches, de pouvoir corriger ces anomalies des muscles, ces anomalies du métabolisme, qui sont le lot de dizaines de milliers d'enfants ou d'adolescents. Donc, comprendre pour comprendre, comprendre pour essayer de soigner. Et pour cela, il faut qu'on comprenne les différentes étapes. Alors, des cellules souches, vous en avez partout, tout le temps, et c'est grâce à ça que votre corps se construit actuellement et déjà s'auto-renouvelle. Alors, je vous ai mis quelques exemples de ces cellules souches que vous avez près de vous ou que vous pouvez même toucher. Par exemple, prenons la peau. Dans la peau, il y a 4 types de cellules souches. 4 types de cellules souches qui se trouvent soit au niveau ici de ce qu'on appelle le bulge des follicules pileux, soit au niveau de la base des follicules pileux qui permettent la croissance du poil, soit encore dans d'autres régions ici de la crypte. Grâce à ces cellules de la peau, on va pouvoir essayer de reconstituer un derme et un épiderme. On va pouvoir essayer de comprendre comment un poil se construit et quelles sont les différentes fonctions, en particulier protectrices, du poil ou de ces glandes ici qui sécrètent le sébum qui nous permet de protéger notre peau aussi bien de beaucoup d'agressions, même si certains d'entre vous s'en plaignent à cause de quelques poussées d'acné ou de quelques vilains boutons. Il faut savoir que notre peau est notre première carapace et notre première protection par rapport aux agressions de l'extérieur. Et donc, cette peau, c'est un organe essentiel. Je vous ai pris comme autre exemple le renouvellement des cryptes dans le tube digestif. Là, on sait qu'on a des cellules souches qui sont au fond de ces cryptes et qui, en proliférant, vont remonter le long des villosités et permettre le renouvellement du tube digestif. Des cellules souches extrêmement importantes parce qu'on les utilise en thérapeutique depuis 40 ans, ce sont les cellules souches de la moelle qui existent dans les os longs, hein, la moelle osseuse. Et cette moelle osseuse, elle comporte au moins deux grandes catégories de cellules souches chez l'adulte. Les cellules souches mésenchymateuses qui vont donner les cellules qui renouvellent l'os. Hein, votre os, il se construit et il se détruit en permanence. Il s'auto-renouvelle constamment, comme ça que vous pouvez réparer des fractures, qui vont donner des cellules du gras, qui sont importantes, et puis qui vont donner les cellules à l'origine des différents éléments du sang. Alors là, vous renouvelez vos globules blancs tous les 10 jours, vous renouvelez vos plaquettes, les éléments qui permettent la coagulation du sang tous les 10 jours aussi, vous renouvelez vos globules rouges tous les 3 mois, et pour ce faire, eh bien, il faut bien des cellules qui se multiplie de façon forte, puis qui s'engage grâce à des informations qu'elles reçoivent de leur environnement, grâce à des retours d'informations sur le stock de cellules qui est en cours dans l'organisme et qui vont produire les différentes lignées, que ce soit les cellules immunitaires comme les lymphocytes que vous avez en haut, que ce soit des cellules de type neutrophile ou les cellules rouges ou les plaquettes. Alors, une des questions qui, depuis des années, fait la une de l'actualité, c'est que, comme on vient de le voir, les cellules adultes, certaines sont dotées de facultés de prolifération importantes, mais d'autres pas. Et en l'occurrence, toutes sont difficiles d'accès. Vous avez vu que les cellules souches de l'intestin, elles sont au fond des cryptes. Et puis elles sont dispersées, une par-ci, une par-là. Les cellules de la peau, elles sont dans ces bulges qui sont enfouis très profondément dans le derme. Les cellules du système nerveux, elles sont carrément dans les ventricules, sur les bords des ventricules, à l'intérieur du système nerveux. Donc il faut une opération neurochirurgicale si on veut pouvoir aller en prélever quelques-unes. Donc, très difficile d'accès, sauf pour la moelle osseuse. Même si c'est un peu douloureux, mais enfin, disons que la moelle osseuse est une exception à ces difficultés d'accès pour les autres cellules. Et puis, comme on l'a dit, elle prolifère peu. Donc, dans une stratégie de médecine régénérative, ces cellules souches adultes sont difficiles à avoir, difficiles à amplifier. En tout état de cause, ça mettrait très longtemps et ça serait très onéreux. Donc, on a cherché à voir s'il était possible d'obtenir des cellules avec un meilleur potentiel de prolifération et avec des capacités plus larges de différenciation. D'où le retour vers les cellules pluripotentes. Alors comment on obtient des cellules pluripotentes ? On l'a vu, la première chose c'est de suivre le chemin classique des divisions vers le blastocyste. Donc ça va être les cellules souches embryonnaires qu'on va pouvoir obtenir. À partir de quel blastocyste ? À partir des embryons surnuméraires. Alors, c'est quoi les embryons surnuméraires ? Eh bien, quand on fait une fécondation in vitro, vous savez que depuis 1978 et la naissance de Louise Brown, on est capable, non pas dans un tube à essai, mais plutôt dans une boîte de pétri comme ça, de mettre en contact des spermatozoïdes et un ovule de telle façon à obtenir in vitro une fécondation. C'est une technique qui a permis aujourd'hui la naissance de plus de 3 millions d'enfants à travers le monde, 3 millions d'enfants qui, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus des adultes. Louise Brown et sa sœur Anne Brown, non seulement sont devenus adultes, mais ont eu à leur tour maintenant des enfants, d'ailleurs de façon totalement naturelle. Donc, des millions de personnes sont maintenant nées à travers le monde par cette technique de fécondation in vitro. Malgré tout, cette technique de fécondation reste peu efficace. Si vous prenez un couple qui rentre dans un parcours de fécondation in vitro, il a un tiers de chance, disons, d'avoir un enfant au bout de ce parcours de fécondation. Un tiers de chance seulement. Ça veut dire deux tiers de chance que, malgré différentes tentatives, on aille à l'échec. Alors, pour essayer d'augmenter les chances, on essaye de faire plusieurs fécondations, c'est-à-dire de mettre plusieurs ovules en présence des différents spermatozoïdes. Mais ensuite, on ne va implanter que un ou deux embryons fécondés à la fois. Les autres, on va les conserver dans l'azote liquide pour une nouvelle tentative si la première a échoué. Mais si la première réussit et si les parents ont eu un enfant, éventuellement un deuxième, et en sont satisfaits, il reste souvent des embryons qui ont été fécondés, donc ces blastocystes de 4 ou 5 jours, et qui n'ont plus de projet parental. Alors il y a des possibilités d'adoption, entre guillemets, c'est-à-dire de les donner à d'autres couples infertiles. Et puis il y a la possibilité, puisqu'il n'y a pas d'autres projets pour ces cellules, de les donner à la recherche et qu'en prélevant la masse cellulaire interne, on puisse dériver des cellules souches embryonnaires et étudier ces cellules souches embryonnaires. Ça, c'est la première source de cellules souches embryonnaires humaines. La deuxième, c'est une stratégie qui a été utilisée pour le clonage de Dolly, la brebis, c'est de prendre un ovule, d'enlever le noyau de cet ovule et de le remplacer par le noyau d'une cellule adulte. C'est ce qu'on appelle de la transposition nucléaire ou du transfert nucléaire. Alors c'est quelque chose qui est très difficile à faire, qui n'a jamais été réalisé, jamais, chez l'homme avec un quelconque succès. Même chez les primates comme le chimpanzé ou le macaque où ça a pu être tenté, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour d'autres animaux, pour des chats, pour des vaches, pour des moutons. Ça a pu être réalisé et ça se réalise maintenant de façon assez régulière. Donc chez l'homme, cette technique de transposition nucléaire n'a pas pu être réalisée avec succès et aujourd'hui elle est vraiment de moins en moins suivie. Et puis la troisième voie, c'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. C'est le fait qu'on ait découvert il n'y a pas longtemps, puisque c'était Yamanaka, un chercheur japonais, il y a seulement 4 ans, en 2006, la publication chez la souris, seulement en 2007 chez l'homme, la possibilité de changer la flèche du temps, de prendre des cellules qui sont différenciées et en leur faisant réexprimer des facteurs normalement exprimés au cours de la vie embryonnaire de la cellule, les faire retourner en arrière. C'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites et on va les revoir un peu plus en détail là. Donc ça, c'était pour vous résumer comment on fait. Comment on fait une fécondation in vitro? Eh bien, on coince un ovule et puis, vous voyez ici avec une technique qu'on appelle l'ICSI, l'injection intracytoplasmique, on injecte directement le cytoplasme. Il peut y avoir naissance, il peut y avoir des embryons surnuméraires. La transposition, eh bien, on enlève ce noyau en l'aspirant et on le remplace par le noyau d'une cellule adulte. Alors, quand je dis ça, vous vous dites, mais il n'y a qu'à. Ça semble pas très difficile. La réalité, c'est que vous avez un succès sur des centaines d'essais. Et donc, un des problèmes, par exemple, éthiques de cette question de la transposition nucléaire, c'est comment on obtient ces ovules? Comment on obtient ces ovules qui vont permettre de faire des centaines d'essais? Une femme, dans toute sa vie, elle va produire 400 ovules. Une femme, dans une ovulation, même si on la stimule avec des hormones, ce qui est très dangereux, ce qui va la rendre malade pendant plusieurs jours, elle va produire 10 à 20 ovules. Comment vous faites pour obtenir des centaines d'ovules de femmes humaines pour des tentatives comme ça de transposition? Voyez tout le risque de trafic, tout le risque de marchandisation du corps humain qui pouvait être associé à ce type de technique et qui, de toute façon, l'aurait rendu inapplicable sur le plan médical. Alors, cette diapositive, c'était aussi pour essayer de tordre le cou à une vieille notion qui est fausse, qui était le clonage thérapeutique. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est toujours un peu la même histoire que j'essaye de vous dire, c'est tout s'inscrit dans une histoire. Il n'y a rien de déterminé, il n'y a rien de figé. Quand vous faites de la transposition nucléaire et que vous l'implantez dans l'utérus d'une brebis, comme ça a été fait pour Dolly, votre objectif, votre stratégie, c'est d'avoir un nouveau mouton qui soit cloné. Et donc, effectivement, vous essayez de faire du clonage reproductif. Par contre, quand vous faites de la transposition pour obtenir un grumeau cellulaire, comme ici, pour obtenir ensuite des cultures de cellules pour pouvoir faire des greffes, eh bien, ce que vous essayez de faire, c'est de l'amplification de cellules pour des greffes. Vous avez quelques étapes qui sont communes, mais l'histoire, aussi bien l'histoire des cellules que l'histoire de ce que vous faites, est totalement différente. Donc on ne va pas revenir sur ça. Maintenant, on va passer à l'actualité, au fond, la plus chaude, qui est ces cellules iPS. Eh bien, et qui nous apprennent beaucoup de choses, pas seulement le fait de faire une cellule, mais aussi, encore une fois, le fait qu'aucun destin n'est définitivement tracé. Vous prenez, chez la souris, alors vous prenez une souris transgénique, pourquoi vous prenez une souris transgénique ? Parce que ça va vous permettre de suivre vos cellules. Donc, on est capable, depuis maintenant 20 ans, de faire des souris marquées par différentes choses. Par exemple, ici, des souris qui expriment une protéine d'éponge qui permet, quand vous l'éclairez avec de la lumière, une certaine longueur d'onde, d'avoir une fluorescence verte. Donc, vous allez pouvoir repérer vos cellules d'intérêt parce qu'elles seront vertes. Et vous voyez que sur le fond, vous avez d'autres cellules parce que pour les cultiver encore aujourd'hui, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des cellules nourricières, donc des feeders. Là, vous allez pouvoir reconnaître vos cellules d'intérêt par rapport à la cellule nourricière qui est en dessous. Alors, vous prenez donc ces cellules de la peau. Là, vous prenez une souris, entre guillemets, adulte. Une souris adulte, c'est une souris qui a plus de 2 mois. Donc, vous prenez une cellule de la peau de cette brave souris. Vous la mettez en culture et maintenant, vous allez rajouter ces 4 facteurs. OCT3-4, SOX2, KLF4 et CEMIC. Alors, vous avez différentes façons de les rajouter. La façon que Yamanaka avait trouvé de les rajouter, c'était de les mettre dans des virus, en particulier des lentivirus, des virus qui infectent nos cellules. Ces virus vont rentrer dans la cellule et aller délivrer, comme les camions qui font les livraisons le matin à la cantine du lycée, aller livrer la marchandise à l'intérieur des cellules. Aujourd'hui, comme ces virus risquent d'induire des problèmes de cancer, on essaye d'ajouter à ces facteurs, à ces protéines, on essaye de leur ajouter des étiquettes qui sont un peu comme des tire-bouchons et qui vont permettre de traverser les cellules directement. Toujours est-il qu'une fois que ces cellules sont capables d'exprimer cette combinaison de 4 facteurs, une fois que vous allez avoir enlevé les cellules qui n'expriment pas ces facteurs avec une sélection qui, ici, utilise des antibiotiques, eh bien, vous allez pouvoir commencer à voir ces cellules pousser. Alors, là encore, il faut parler de chiffres. Vous allez avoir une cellule qui repart vers son état embryonnaire pour 10 000 cellules transduites. Pour 10 000 cellules dans lesquelles vous avez mis cette combinaison de facteurs, une cellule, on ne sait pas pourquoi, on l'étudie, une cellule va repartir dans l'autre sens, commencer à former un amas de cellules, et cet amas de cellules correspond à ce qu'on appelle des corps embryoïdes. Et après, vous allez faire la démonstration que, oui, vous avez bien eu des cellules pluripotentes, parce que suffit pas d'avoir quelque chose qui ressemble à une cellule embryonnaire. Il faut démontrer que c'est une cellule qui a retrouvé ses capacités embryonnaires. Donc démontrer qu'elle est bien capable de reconstituer tous les tissus de l'organisme. Alors on va injecter ces cellules dans un blastocyste normal, d'une souris qu'on trouve dans la cave du bâtiment du laboratoire. Donc on passe une partie de notre temps à chasser les souris. J'espère que vous ne me croyez pas. Donc on prend une autre souche de souris qui, elle, est normale. On va transférer dans le blastocyste les cellules iPS. Et là, on va se retrouver avec une souris chimérique, puisqu'elle aura des cellules marquées en vert issues de la souris transgénique de départ, et puis les cellules de la souris normale. Et cette souris chimérique, eh bien, on va essayer de voir si elle a bien des cellules qui sont parties dans les différents organes, y compris des cellules qui sont parties dans les organes qui produisent les cellules germinales, les ovaires ou les testicules, et qui vont, à la génération suivante, pouvoir donner des souris tout aussi vertes que la souris de départ. Alors des exemples, parce que tout ça, c'est pas juste des schémas. Voilà un exemple tiré du laboratoire de Hideyuki Okano à l'université Keio de Tokyo, avec qui on collabore, et qui sont des vraies cellules du laboratoire, dont vous voyez ici des clichés. Donc la capacité de faire ces cellules. Alors, faut vous rendre compte que c'est un travail de fou. Shigeki Ota, qui est le collègue avec qui on travaille, il a à peu près mon âge. Il dirige une équipe dans un des plus prestigieux instituts de recherche du monde. Il vient tous les jours au laboratoire. Tous les jours. Tous les jours, ça veut dire samedi, dimanche, Noël. Enfin, on est au Japon, jour de l'an japonais, ce que vous voulez, la fête de l'empereur. Tous les jours. Pour changer le milieu de ces cellules. Parce que si vous les laissez un jour sans changer de milieu, c'est terminé. Elles se différencient et c'est fini. Vous n'avez plus de cellules souches. Et c'est la même chose pour les cellules souches embryonnaires humaines. Tous les jours, il faut aller leur donner à manger et leur renouveler leur milieu. Sinon, vous les perdez. Alors, si vous faites ça, si vous êtes suffisamment fou et suffisamment passionné pour faire ça, eh bien, vous voyez qu'à partir de ces cellules, vous pouvez avoir les trois feuillets classiques initiaux de tout organisme, l'ectoderme, le mésoderme, l'endoderme, avec des marqueurs spécifiques. Un autre exemple pris là à partir de travaux du laboratoire, c'est que vous pouvez faire ça avec ces cellules, avec d'autres facteurs, donc d'autres travaux qui là n'utilisent plus du tout l'antivirus, mais juste un facteur qui s'appelle un facteur de croissance, le TGF-alpha. Vous pouvez, en traitant pendant plusieurs jours, vous voyez 7 jours, des astrocytes qui sont issus d'une cellule, d'un cerveau adulte, les faire se différencier et, en les traitant plusieurs mois, obtenir ces cellules souches neurales. Là, c'est juste une cartographie de protéines pour vous montrer qu'elles ressemblent totalement à des cellules souches neurales embryonnaires et que vous pouvez les faire différencier, alors que c'était des cellules gliales, en neurones avec les propriétés électrophysiologiques des neurones. Donc, quelque chose d'absolument merveilleux, parce que la voie royale, que ce soit les IPS, que ce soit d'autres stratégies, vers des stratégies de médecine régénérative. Oui, mais. Le problème, c'est que nous savons que c'est exactement aussi la voie qu'empruntent de nombreux cancers. Et voilà l'exemple de ça. Si vous irradiez un astrocyte, il ne se passe rien. Donc, vous faites un stress génotoxique, vous faites des cassures de l'ADN, il répare. Si vous irradiez dans les mêmes conditions, avec la même dose, avec le même stress génotoxique, une de ces cellules différenciées, enfin, une culture de ces cellules dédifférenciées, là, vous obtenez des tumeurs extrêmement agressives. L'état souche est aussi un état de sensibilité particulière de l'ADN à des stress génotoxiques, ce qui est tout à fait paradoxal, parce que pour pouvoir faire des cellules souches tout au long de la vie, il faut des systèmes de réparation extrêmement efficaces, et en même temps, vous voyez une sensibilité particulière à des stress génotoxiques. Donc, Le fait d'utiliser ces cellules iPS dans une stratégie thérapeutique médicale sûre n'est pas encore malheureusement pour demain. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible qu'on ait été une cellule qui se soit fragmentée, qui se soit divisée, qui nous ait donné nous, et puis on prend un bout de nous, une cellule de la peau, et on est capable de refaire la cellule initiale. Comment ça marche, tout ça ? Et d'autant plus que, probablement, à juste titre, et pour des effets de simplification, vos professeurs vous ont enseigné que l'information génétique, elle est dans notre génome, dans les 3 milliards de paires de bases qui constituent notre patrimoine génétique, qui est dans le noyau de chaque cellule, et qui permet d'enchaîner un programme de développement, qui permet que la cellule se fragmente, puis se divise, puis devienne un individu, et que, grosso modo, même si on a beaucoup de différences les uns avec les autres, on a tous, à peu près au même endroit, une tête, des yeux, un nez, une bouche, des mains, avec 5 doigts dans chaque main, en général, etc. Et puis comment ça se fait qu'une cellule, à un moment, elle a toutes les capacités, et puis une cellule, à un autre moment, elle n'a plus toutes ses capacités ? Elle n'a pas changé de génome, la cellule. Dans chacune de nos cellules, elle a bien les 3 milliards de paires de bases. Il n'y a rien qui a changé. Les chromosomes, ils sont toujours en même nombre dans chacune de nos cellules, que ce soit une cellule de la peau, que ce soit une cellule du cerveau. Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible, tout ça ? C'est possible en particulier parce que ce génome, il est dynamique. Ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas un programme informatique qui se déroule et qui se lance et qui s'enchaîne une chose après l'autre. Quelque chose qui dépend de l'environnement et c'est quelque chose où des événements en instruisent d'autres. Les cellules voisines instruisent leurs collègues et tout ça. Et grâce à des structures qui se passent au niveau de l'ADN et au niveau des gènes, pour faire simple, vous connaissez très bien votre double hélice d'ADN. Cette double hélice d'ADN, elle va être modifiée, elle va être marquée d'une part par des protéines qu'on appelle les histones, d'autre part par des marques qui vont être ajoutées sur cet ADN. Ces marques, qu'on appelle des méthylations, qu'elles soient sur l'ADN lui-même ou qu'elles soient sur les histones, vont permettre à cette double hélice de se replier dans l'espace correctement, un peu comme un accordéon. Mais ça va faire que certains gènes vont devenir cachés, on ne pourra plus y avoir accès, donc ils seront éteints. Dans une cellule du système nerveux, on va éteindre les cellules qui codent pour une cellule de foie, et au contraire, dans une cellule de foie, on va éteindre des gènes qui codent pour une cellule du système nerveux. Et puis, vous allez en plus rajouter des marques sur cet ADN pour bloquer la capacité de lire le gène, même si par hasard, à un moment, ça s'ouvrait. Et c'est grâce à ces marques, que ce soit sur les histones ou que ce soit sur l'ADN, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, que vous allez pouvoir construire, mais que vous allez pouvoir aussi, à certains moments, effacer, gommer certaines de ces marques. Pour le meilleur, en faire des IPS, ou pour le pire, en faire un cancer. Alors, pour terminer, je voudrais quand même qu'on dise, puisque Madame le Proviseur a souligné l'implication que je pouvais avoir dans les questions éthiques, je voudrais quand même qu'on dise un mot des lois, de la révision des lois de bioéthique qui est en cours, et du fait qu'on va quand même parler aussi de ces cellules souches, et que malheureusement, si on en croit le rapport de la mission parlementaire qui a été remis en début de semaine, qui est un gros rapport de 600 pages et qui comprend une centaine de propositions, on va rester dans une situation assez aberrante en France, qui est que le travail sur les cellules souches embryonnaires humaines, qui reste nécessaire parce que on sait que justement ces marques épigénétiques sont différentes sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches pluripotentes induites, va rester interdit de principe, mais autorisé sous forme de dérogation. Donc cette hypocrisie de l'écriture est bizarre. Et puis, alors qu'on est dans le temps de la recherche scientifique, l'exigence pour avoir le droit de travailler sur ces cellules, c'est d'avoir un projet thérapeutique, donc un projet de soins, très hypothétique, qu'aucune autre méthode alternative ne peut remplacer. Comment vous voulez savoir s'il y a une méthode alternative si vous n'avez pas fait de recherche dessus avant? Donc, on marche un peu sur la tête avec cette formulation de la loi, mais malheureusement, elle est le reflet, elle aussi, la loi d'une histoire. Et en même temps, vous voyez bien à quel rythme, à quelle vitesse la science avance. Les dernières lois de bioéthique ont été révisées en 2004. L'examen de la révision avait commencé en 1999. Elles ont été révisées en 2004. En 2004, on ne savait même pas qu'il y avait la possibilité de faire des IPS, puisque les travaux d'Yamanaka sont publiés en 2006. Dès qu'ils sont publiés, ça remet tout en cause. On a écrit beaucoup de choses sur la génétique et sur le caractère privé des données de la génétique. Aujourd'hui, avec les séquençages de ce qu'on appelle de nouvelle génération, le deep sequencing, vous pouvez avoir un génome humain en une semaine à peu près. D'ici 2 à 3 ans, il est possible avec les séquenceurs de 5e génération qu'il faille seulement 2 minutes pour arriver à lire les 3 milliards de paires de bases. On pourra avoir à disponibilité la séquence complète du génome. Donc, on ne peut pas s'abriter derrière des barrières techniques pour ne pas penser les questions éthiques. Et les questions éthiques, ce sont des questions qui vous concernent en tant que citoyen et qui ne sont pas que des questions de biologie. Mais c'est les nouvelles questions que la biologie pose à la société et qui sont des questions importantes qu'il faut voir sous tous leurs aspects. Et en particulier en France, on a l'habitude de toujours avoir très peur de la notion de conflit d'intérêts, alors que les anglo-saxons, au contraire, cherchent à expliciter le conflit d'intérêts et dire voilà, ben, là, il y a un problème et ce problème, il faut le reconnaître et le discuter. Alors si vous prenez ce qu'on a déjà discuté, cette balance qu'il peut y avoir entre différents intérêts contradictoires, ben, ces cellules souches, on aimerait bien les voir se développer dans le domaine des biotechnologies. Pourquoi ? Parce que la santé, aujourd'hui, c'est un des principaux postes de dépenses. Pourquoi ? Parce que si en France, on avait les biotechnologies équivalentes aux biotechnologies américaines, il y aurait 2 fois plus d'emplois scientifiques en biologie qu'il n'y en a actuellement. Donc ça vous ferait des milliers de postes possibles pour vous dans la carrière que vous allez avoir. Et si vous êtes demain dans une entreprise, ce que vous voudrez, c'est des bonnes pratiques. Vous voudrez que le rapport qualité-prix soit bon, bon pour le patient, mais aussi bon pour les bénéfices de l'entreprise. Vous voudrez une satisfaction du consommateur. Vous voudrez que le produit soit sûr, qu'il soit efficace et qu'il soit facile à produire. Ça, c'est les préoccupations d'un industriel. Est-ce que ce sont les mêmes préoccupations que vous, en tant que citoyen ? Non. Non, parce que vous, en tant que citoyen, vous allez vous poser des questions d'éthique. Est-ce que c'est normal ou pas normal ? Est-ce que j'accepte ? Est-ce que je n'accepte pas qu'on utilise des embryons surnuméraires pour produire des cellules souches embryonnaires ? Est-ce que, non pas la société commerciale, mais la société en tant que groupe dans la cité va bénéficier de ces avancées thérapeutiques ? Ou est-ce qu'elles vont coûter tellement cher que seulement certains, et à un prix extrêmement élevé, vont pouvoir se les offrir et qu'à côté de ça, on ne fera pas de prévention ou on ne fera pas d'éducation à la santé ? C'est une question sociale. Est-ce que ça correspond à mes besoins ? Est-ce que le fait de vivre 150 ans correspond à mes besoins ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord que je pense, par exemple, à des enfants qui meurent de faim dans certains pays du Sud ? Est-ce que c'est une priorité de ma société au moment où j'en parle ? Est-ce que c'est disponible ? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre des rêves ? Est-ce que les moyens que je suis prêt à allouer à ces choses sont importants ? Alors pour résumer ça, on peut dire que le dogme de la biologie, c'est que l'ADN, ça fait de l'ARN et ça fait des protéines, et ces protéines vont faire n'importe quoi. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'espèrent les biotechnologies, parce que pour aller vite, les biotechnologies, elles espèrent que l'ADN fait toujours de l'ARN et des protéines, mais que finalement, il faut que ça fasse de l'argent. Et que votre espoir à vous, c'est que tout ça se finisse en traitement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de challenges qui sont à relever avec ces questions de cellules souches, des challenges qui remettent en question certaines vues de la société ou certaines vues traditionnelles, par exemple, du religieux. Est-ce qu'on est dans des questions de principe où l'embryon est intouchable parce qu'on considère qu'il est déjà une personne humaine ? Il faut se rappeler que cette vision de L'embryon comme personne dès la fécondation est très récente, elle a à peine un siècle. Avant, et si on reprend d'Aristote à saint Augustin, puis à saint Thomas d'Aquin, ou dans d'autres religions, l'islam, le judaïsme, on pense qu'il y a une incarnation différée, que l'âme vient dans le corps après quelque temps de développement de l'embryon. Et juste pour vous faire sourire, le concile de Nicée qui se tenait en 762, après des mois de discussion, avait arbitré que l'âme arrivait dans le corps des garçons à 40 jours après la fécondation et dans celui des filles à 80 jours seulement. Et puis, l'autre... Mais on a avancé hein, depuis. On a fait un peu de travaux scientifiques. Donc, et puis une chose qui est très importante aussi, et c'est le scientifique qui parle, c'est de ne pas succomber non plus au vertige du demain en race gratis, au vertige de la science, au vertige de c'est bien parce que demain je vais guérir l'humanité, c'est bien parce que je suis un savant et que comme je suis un savant, je ne travaille que pour le bien commun et que pour l'humanité. On connaît la malheureuse lettre que Louis Pasteur avait envoyée à l'empereur Pedro II du Brésil, en lui proposant de lui donner des condamnés à mort pour qu'il puisse tester son vaccin contre la rage, en disant, bah, écoutez, s'ils meurent, de toute façon, ils auraient dû mourir, et puis s'ils s'en sortent, bah, on les graciera parce qu'ils ont accepté de faire progresser la science. Et Charles Nicolle, un des élèves de Pasteur, avait dit que la passion du savant avait égaré l'éthique de l'homme. Et ça, il ne faut pas y céder non plus. Donc, on doit continuer à se poser la question de quand commence une vie individuelle. Mais sachez que, selon que nous parlons ici au lycée Descartes ou qu'on est dans un autre pays, ça ne sera pas vu de la même façon. Par exemple, les Anglais ont une loi qui détermine que tant que l'embryon n'a pas été implanté, tant qu'il n'a pas eu sa nidification, tant que l'ébauche de ce qui sera le système nerveux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ligne médiane, n'est pas là, et ça arrive à 14 jours après la fécondation in vitro, qu'elle soit in vitro ou in vivo, eh bien on est dans un pré-embryon et qu'on a le droit de faire n'importe quelle recherche sur ce pré-embryon et qu'on n'est dans l'embryon qu'après. Pourquoi cette vision ? Parce que les Anglais sont des pragmatiques. Pour eux, ce qui définit l'humain, c'est sa capacité de souffrir. Et donc, n'est vraiment humain que celui qui est capable de souffrir. Et comme ça, c'est l'ébauche du système nerveux, donc ce qui permettra la perception de la souffrance, eh bien, on commence à considérer l'humain à partir du moment où s'ébauche le système qui lui permettra de souffrir. Donc vous voyez que ça dépend du contexte social dans lequel on est. Ça dépend évidemment des lois qui se font. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans des lois qui sont gradualistes. L'avortement est autorisé parce qu'on considère qu'au tout début d'une grossesse, c'est la décision de la femme et le corps de la femme qui compte. Et puis au fur et à mesure que la grossesse va s'avancer, le fœtus va acquérir des droits de plus en plus importants. Donc c'est ce qu'on appelle une vision gradualiste et pas une vision de principe. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour vous laisser quand même un peu de place pour vos questions et éventuellement revenir ensuite à des diapositives que j'ai préparées éventuellement pour répondre à certaines de vos questions sur les cellules souches, la génétique ou l'épigénétique. Alors, surtout...